Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire, podcast associé par ailleurs au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver André Loez pour ce nouvel épisode de ce format, aujourd'hui consacré aux violences et aux déchirements de l'espace américain au XIXe siècle, dans le contexte de la conquête par les colons d'origine européenne de cette région et l'Ouest américain, avec tout le flou qu'elle implique, on en reparlera évidemment, et qui fait apparaître à la fois des guerres coloniales, des chocs d'impérialisme, des guerres étatiques plus classiques, par exemple entre le Mexique et les États-Unis, et même des guerres civiles, en particulier la guerre de sécession.
Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Soizic Villerbu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Limoges et auteur de cette nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, États-Unis, Mexique, paru il y a quelques mois chez Passé Composé. Alors bienvenue sur le podcast du Fil de l'Épée. C'est un livre qui est vraiment passionnant, qui est une somme parce que son ambition dépasse largement les guerres dont on parlera aujourd'hui. Nous, c'est notre axe évidemment dans ce podcast, l'histoire de la guerre, l'histoire militaire, mais vous traitez de toutes les dimensions économiques, sociales, géographiques, territoriales de cette expansion, extension de l'emprise notamment états-unienne vers l'Ouest, mais aussi des interactions avec le Canada et le Mexique, la réduction progressive des Amérindiens. Donc c'est une histoire vaste, complexe, un livre en plus qui fait le point sur un grand nombre de débats historiographiques pas toujours connus en France, donc ça a un vrai intérêt aussi de ce point de vue-là. Mais du coup, pour cette émission, on va voir que les guerres sont par beaucoup de côtés des outils et même presque une matrice de construction de cet Ouest états-unien et américain au XIXe siècle. Est-ce que pour situer les choses, on peut commencer par dresser un tableau vers 1840, disons, des populations, des puissances sur ce continent américain, nord-américain. Il y a trois États et puis il y a un espace contesté où vivent des populations amérindiennes.
Alors oui, alors dans les années 1840, il n'y a pas encore trois États, parce qu'il y a effectivement le Mexique au sud qui est un État neuf, hein, puisque il a 20 ans et il est en plein processus de construction nationale. Et cette construction nationale, elle s'opère effectivement en fidélisant les populations hispaniques et en traitant difficilement, parfois par la guerre, avec les populations amérindiennes, notamment les Comanches, hein, et les Apaches, qui sont les populations compliquées pour le Mexique. On a les États-Unis, effectivement, au nord, qui est un État neuf aussi, mais un peu moins que le Mexique, mais qui est aussi en phase de construction nationale et qui est surtout complètement déchiré dans les années 1840 par la question de l'esclavage.
Oui, c'est la question centrale sur laquelle on va revenir à de nombreuses reprises.
Effectivement, entre nord et sud, et avec une pulsion expansionniste qui est là depuis le début du pays. Hein. Le pays naît en grande partie aussi de cette pulsion expansionniste. Il fallait franchir les Appalaches, et là, on a franchi le Mississippi, donc il y a cette pulsion-là. Et évidemment, c'est une pulsion anti-autochtone, puisque l'idée est quand même de prendre les terres des autochtones pour y installer des colons. Donc il y a nécessairement cette phase de conquête. Et puis plus au nord, il n'y a pas encore d'État au sens strict, puisque c'est encore un ensemble de colonies britanniques. Et pour la partie ouest, c'est encore essentiellement la compagnie de la baie d'Hudson qui contrôle les grandes plaines et des colonies britanniques sur la côte pacifique.
On pourrait même ajouter que la Russie n'a pas encore vendu l'Alaska, donc voilà, il y aurait même encore un acteur. Ouais. Est-ce qu'on peut, pour situer géographiquement ce dont on parle, moi schématiquement en tête et en vous lisant, j'avais un peu trois bandes successives géographiques en partant du Mississippi. Une première bande qui correspondrait aux plaines et aux régions dans lesquelles des fermiers peuvent s'installer. Une deuxième bande plus dure à franchir qui serait rocheuse et désert. Et puis une troisième qui correspondrait à la côte pacifique, la Californie, l'Oregon. Est-ce que schématiquement on pourrait dire qu'il y a ces trois espaces successifs en allant vers l'ouest.
Si on se place en 1240, non, parce que les grandes plaines sont encore perçues comme un espace hostile. Et du coup, c'est une bande que l'on dépasse d'une certaine manière pour aller s'installer. Les colons qui commencent à franchir les plaines avec les chariots bâchés, que pour le coup, dans la culture partagée de l'ouest, tout le monde a en tête, franchissent les plaines, mais ne s'y installent pas. Ou alors vraiment sur la bordure orientale des plaines, mais les plaines centrales sont encore perçues comme un espace hostile, un grand désert. Et en fait, on les franchit pour aller s'installer, non pas tant dans les rocheuses, sauf quand on est mormon, effectivement, parce que les mormons, la fin des années 40, s'installent dans les rocheuses, mais plutôt sur la côte ouest. Et encore pas au début des années 40, puisque 2040, c'est encore en grande partie mexicain, mais plutôt vers le nord-ouest, hein, dans la vallée de la Willamette, par exemple, où on peut effectivement installer des fermes. Hein.
Alors, ouais, les grandes plaines, signalons, c'est des états comme le Minnesota, etc. Enfin, c'est vraiment toute cette bande qui est à peu près au niveau de cette longitude-là. Mais alors, justement, est-ce qu'on pourrait s'attarder peut-être sur ce terme d'ouest qui est central, c'est évidemment le grand concept, mais parce que c'est à la fois une dénomination géographique, en même temps, c'est bien plus que ça. Le livre s'ouvre là-dessus sur l'idée que, en fait, la frontière a quelque chose de structurel dans la constitution de l'identité américaine. En tout cas, c'est une hypothèse qui est faite très vite, déjà au moment de cette conquête. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Ouest ? Est-ce que c'est un territoire ? Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que c'est un concept qui est affiné progressivement ? Ou est-ce que, dans l'absolu, ça reste toujours cette espèce de flou dans lequel chacun peut reconnaître ce qu'il veut ?
Alors, la question est excellente et elle n'a pas de réponse claire. Même de la part de l'ensemble des collègues, États-Unis, etc., les choses ne sont pas claires sur c'est quoi l'Ouest et où c'est. Personne n'est au clair là-dessus. Mais là, dans la mesure où j'ai entamé une réflexion sur trois pays en même temps, donc pour le cas mexicain, il n'y a pas d'ouest, il y a un nord. Hein, il s'agit bien de la frontière nord de la Nouvelle-Espagne, puis du Mexique. Donc là, il n'y a pas de mythe de l'ouest, pour le coup, au Mexique, puisqu'en plus, ils l'ont perdu. Donc il y a un traumatisme du nord, plus qu'un mythe de l'ouest. Pour les États-Unis, effectivement, il y a un ouest, mais cet ouest évolue sans cesse. Hein, parce que à l'indépendance, c'est au-delà des Appalaches, c'est l'ouest. Et après, il y a le Far West, forcément, hein, celui qui est plus loin. Le premier Ouest transappalachien, et même au-delà du Mississippi, va se transformer en Midwest à un moment donné. Hein, et même le Midwest, ce sont des débats sans fin, parce qu'il y a des États qui sont dans le Midwest, mais aussi dans l'Ouest, les Grandes Plaines. Enfin, sincèrement, il n'y a pas d'accord générique sur le... Il y avait eu une enquête de fait dans les années 80 auprès des collègues états-uniens, spécialistes de l'Ouest, a priori, pour savoir où ils situaient l'Ouest. En fait, personne n'était d'accord. Voilà. Personne ne sait en fait où est l'Ouest concrètement. Bon. Et pour le Canada, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment ni de mythe de l'Ouest, ni d'historiographie de l'Ouest en tant que tel au Canada. Donc la question est presque abstraite au Canada en fait.
Mais du coup, comment est-ce que ça joue vraiment dans le projet même conceptuel, alors à la fois des colons par le bas et puis en même temps aussi du pouvoir états-unien, du pouvoir politique, cette idée de cet espace à conquérir, voilà, comment est-ce qu'ils le conceptualisent en quelque sorte ?
Comme un espace à conquérir, c'est l'espace continental qui est la mission états-unienne est de s'emparer de cet espace et de l'offrir aux colons. Alors pour les États-Unis, les Canadiens évidemment vont accéder à cet espace-là plus tard, parce que c'est la compagnie de la baie d'Hudson, et le Canada ne prendra possession en tant qu'État de cela que beaucoup plus tard. Mais même aux États-Unis, il y a des tensions. Hein. Tout le monde, enfin il ne faut pas imaginer un pays unanime dans la conquête de l'Ouest. Hein. Vous avez quand même des divisions politiques sur le sens de la conquête, sur le sens de l'intégration continentale. Les Whigs ne sont pas toujours particulièrement partants sur cette intégration continentale, où ils voient la main du Sud notamment.
Les Whigs, alors rappelons, c'est plus ou moins les ancêtres du Parti républicain, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est ceux qui s'opposent aux démocrates de l'époque. Les démocrates, replaçons, parce que c'est contre-intuitif par rapport à aujourd'hui, sont à l'époque plutôt c'est le parti plutôt des États du Sud pro-esclavagisme.
Oui, les démocrates sont là. Alors, à l'époque, effectivement, leur électorat est beaucoup au Sud, mais pas que au Sud, les démocrates. Hein. C'est le parti du peuple. C'est devenu le parti du peuple blanc. Voilà. Et effectivement, alors après, ça a changé. Mais effectivement, les démocrates sont le parti des expansionnistes esclavagistes, pour faire vraiment très simple. Hein. Et les Whigs sont plutôt le parti des intérêts économiques du Nord, plus réticents face à la conquête. Parce qu'ils voient effectivement dans la conquête, pour une bonne part, dont Lincoln par exemple, ils voient dans la conquête la main du Sud et la volonté d'étendre l'esclavage vers l'Ouest.
Cette extension de l'esclavage, c'est un élément clé du déclenchement d'une des grandes guerres qui figurent dans votre livre, la guerre de 1846-1848 entre les États-Unis et le Mexique, probablement l'une des guerres les plus méconnues du XIXe siècle pour un public français. On va peut-être en parler un petit peu. Avant d'en parler, il me semble qu'il faut faire un point sur quelque chose qui est peut-être un peu technique, mais qui est très important pour comprendre la dimension territoriale des questions dont on parle. C'est que on a aujourd'hui des États-Unis qui ont 50 États. Mais ces États, avant d'être des États, le plus souvent étaient des territoires. Et avant d'être des territoires, ils n'étaient pas forcément peuplés, organisés comme tels. Donc en fait, il y a un processus graduel. Et ces États peuvent demander à adhérer à l'Union, ou l'Union peut les reconnaître comme des États qui adhèrent. Or, c'est la question qui se pose dans les années 1840, notamment pour un territoire qui s'appelle le Texas, et qui pourrait rejoindre l'Union. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le Texas à ce moment-là, et pourquoi c'est un enjeu pourquoi aussi important ?
C'est un enjeu parce que le Texas, qu'on appelle au départ le Texas, Il est espagnol, c'est une colonie, enfin une province de la Nouvelle-Espagne, mais c'est une province frontière d'abord de la Nouvelle-France, après des États-Unis. Et quand le Mexique devient indépendant, alors il a été assez peu peuplé à l'époque espagnole, quand le Mexique devient indépendant, un des enjeux justement de la construction nationale mexicaine, c'est d'arriver à contrôler les frontières nord en fait, du pays, et donc de les peupler. Elles sont déjà peuplées immensément de populations amérindiennes, notamment les Comanches au Texas, mais de les peupler de colons. Et une des idées qu'a le Texas, c'est de faire appel à des colons états-uniens qui sont eux-mêmes en recherche de terre, eux-mêmes, alors notamment des sudistes, effectivement, qui sont en train de se déplacer vers l'ouest. Et puis le Mexique se dit, ben voilà, on a des colons tout près, ils veulent venir, on n'a qu'à les accueillir.
Ils vont devenir mexicains, c'est formidable.
Une belle histoire d'intégration.
Exactement. Mais ça ne marche pas. Concrètement, ça n'a pas fonctionné comme ça. En grande partie parce que les colons sudistes qui s'installent sont des esclavagistes. Dans un État-nation, le Mexique, qui se construit justement sur une abolition de l'esclavage, bien avant que les États-Unis le fassent. Et on aura cette difficulté à gérer cette population. Alors, sachant que le Mexique, lui, vit des tensions entre deux modèles possibles, un modèle fédéraliste et un modèle centraliste, et que on a aussi beaucoup d'hispaniques au Texas qui militent pour une décentralisation maximum, un régime fédéral au Mexique, et donc une province texane parfaitement autonome. Donc il y aura à un certain moment quand même un accord entre des colons états-uniens qui veulent plus de liberté, et puis des hispaniques qui eux-mêmes sont plutôt pour un régime très très fédéraliste, très décentralisé. Mais effectivement, ça va se cristalliser en 1836 avec la déclaration d'indépendance, pour le coup, du Texas, mais quand même très quasi intégralement, pas complètement intégralement, mais quasi intégralement, par les colons sudistes, même s'il y a une toute petite frange de la population hispanique qui soutient cette indépendance et puis qui sera dupe, hein, pour finir de l'indépendance. Mais, et en 1836, ils proclament leur indépendance, qu'ils obtiennent par les armes, effectivement. Alors non pas à la bataille d'Alamo, qui est une défaite pour les Texans, mais à la bataille de San Jacinto, qui est juste après, qui est une grosse défaite pour le général Santa Anna, le président général mexicain. Et le Texas devient indépendant. Ce qui n'est jamais reconnu par le Texas.
Par le Mexique.
Par le Mexique, pardon, oui, non. C'est reconnu par les États-Unis, c'est reconnu par la Grande-Bretagne et la France. Mais il y a en ligne de mire, évidemment, toujours pour tout le monde, cette question de, est-ce que le Texas est voué à rester indépendant, ou est-ce que par hasard il n'est pas voué à devenir un État états-unien, quoi. Bon. Et ça se fait, effectivement, les Texans demandent l'intégration aux États-Unis au milieu des années 1840. Les États-Unis savaient bien que c'était un casus belli, évidemment, face au Mexique, qui n'a jamais reconnu l'indépendance texane. Et d'une certaine manière, il y a une provocation de la part des États-Unis à accepter cette intégration texane, qui est effectivement la cause du conflit contre le Mexique.
Mais donc là, c'est une guerre qui s'ouvre en 1846, et vous détaillez, c'est une guerre qui est un peu oubliée, notamment au Mexique. Il y a une historiographie qui n'a pas forcément très envie de s'en souvenir. Et de l'autre côté, du côté américain, il y a une relecture de ce conflit comme, bon, d'une évidence, etc. D'un côté, il y a un État qui est centré avec une vision, un projet, etc. Et de l'autre, le Mexique, qui est beaucoup moins bien que ça. Et en fait, ce que vous montrez, c'est que, bah non, c'était pas du tout joué d'avance. C'est une guerre que, effectivement, les États-Unis vont conquérir, mais c'est pas une raclée du tout. Les Mexicains se défendent plutôt très bien dans un premier temps. Et puis ensuite, c'est le potentiel économique, c'est les, en quelque sorte les poches profondes américaines qui permettent de soutenir ce conflit et d'arriver à la victoire. Mais bon, finalement, c'est pas cette espèce de grande victoire inéluctable qu'on a parfois tendance à lire dans cette guerre.
Non, et ça a surpris les États-Unis qui avaient une vision du Mexique, mais comme beaucoup d'historiens, et une vision qui traîne encore de nos jours, notamment effectivement dans le western, par exemple pour la BD western, comme un État en échec. Un État-nation qui ne fonctionne pas, qui vit dans le chaos, où rien ne fonctionne, une population
dès
pauvre.
Dès qu'il y a des fédéralistes, on peut les corrompre avec quelques pesos, voilà. Et puis et ça ils marche. Tournent les yeux.
Et ça marche. Et en fait, ce qu'ont montré beaucoup de collègues états-uniens et mexicains, hein, parce que les Mexicains ont commencé assez récemment à se poser la question de cette période de l'histoire mexicaine, qui pendant longtemps a été aussi pour eux vécue comme un drame, parce qu'ils voyaient aussi le chaos et puis la défaite finale, et donc le traumatisme. Et quand on relit cette période-là, on se rend compte que ce n'est pas le cas du tout, que le Mexique est un État parfaitement viable, qui se cherche, mais c'est un État neuf comme tous les États neufs sur le continent, un État colon, donc il se cherche, mais il est relativement puissant. Et surtout, il y a un vrai sentiment national qui est apparu à ce moment-là, un sentiment identitaire, qui fait que le Mexique va effectivement se défendre plutôt bien de manière tout à fait inattendue. Les États-Unis ne s'attendaient pas du tout. Enfin, comme beaucoup de gens, quand ils déclarent la guerre, ils s'attendent à une victoire rapide. Hein, sinon, en général, on ne déclare pas la guerre. Mais voilà, ils s'attendaient à rentrer là-dedans comme dans du beurre. Et en passant par le Nord, hein, tout simplement, le truc le plus classique, en passant par le Texas. Et en fait, ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ce qui a justifié, au bout de quelques mois, le débarquement à Veracruz pour s'approcher de Mexico par la mer, en fait. Et c'est là qu'il y aura une victoire, effectivement, en arrivant à Mexico par Veracruz.
Veracruz, rappelons, c'est donc sur la côte atlantique, mais plutôt au sud du Mexique. Ouais. Ils débarquent par là et du coup, ça prend en quelque sorte en tenaille. Il y a d'un côté les forces du nord et puis de l'autre le débarquement. Du coup, ça met le général Santana, les forces mexicaines d'une manière générale, dans une situation très compliquée.
On peut peut-être préciser au passage qu'il ne faut pas non plus projeter sur les États-Unis du milieu du 19e siècle, la future superpuissance militaire du 20e. C'est un État qui a peu d'expérience militaire. Il y a eu la guerre de 1812 qui n'a pas été de très grande ampleur. Il y a des forces armées qui ne sont pas forcément très très conséquentes et développées. Et en revanche, cette guerre de 1846-48, elle est aussi intéressante parce que c'est en quelque sorte le moment d'apprentissage pour toute la génération des futurs chefs de la guerre civile, aussi bien au sud qu'au nord. On va trouver Lee, Jackson, Grant, qui combattent, qui font en quelque sorte leurs armes dans cette guerre. Donc elle a ce côté quand même matriciel pour le futur affrontement nord-sud.
Elle est matricielle à beaucoup d'égards, effectivement, parce que alors, effectivement, la guerre de 1812-1815 n'a pas vu beaucoup de victoires états-uniennes. La seule, la bataille de l'Orléans, finalement, elle n'a aucun poids puisqu'elle intervient après la signature du traité de paix. Donc finalement, c'est le temps que les nouvelles franchissent l'océan. De toute façon, le traité est signé en Europe avant que la bataille ait lieu en Amérique. Donc, en fait, ça n'a aucun effet sur la paix. Et effectivement, l'armée états-unienne, d'ailleurs, ça a été compliqué de mobiliser des troupes en 1846. Hein, il y a beaucoup de volontaires. Enfin, il a fallu engager des volontaires parce que l'armée n'était pas suffisante. Et effectivement, c'est une matrice à la fois.
La guerre de 1812, je vais le rappeler, c'est une guerre, c'est la seconde, on appelle ça parfois la seconde guerre d'indépendance. C'est encore entre les Américains et les Anglais.
Et les Anglais, ouais. Et donc, guerre matricielle, effectivement. Alors, d'un point de vue très concret, parce que c'est là qu'il y a un apprentissage des techniques de guerre, effectivement, mais c'est aussi une guerre matricielle parce que c'est elle qui va déclencher à terme la guerre de sécession, puisque c'est le résultat de la guerre du Mexique, c'est la conquête effectivement du sud-ouest, et dans ce sud-ouest va se poser la question: est-ce qu'on met l'esclavage ou pas? Et c'est autour de cette question de l'esclavage que va tourner là, et donc de l'expansion de l'esclavage que va se déclencher la guerre de sécession. Et la guerre du Mexique est effectivement, comme vous l'avez bien dit, une guerre oubliée, est d'une importance capitale dans le destin des États-Unis et du continent entier.
Parce que signalons que ça a commencé avec le Texas, ça ne se termine pas avec le Texas, puisque c'est à la suite de la fin de cette guerre, donc le traité de Guadalupe Hidalgo en 1848, qu'il y a aussi la Californie qui passe dans l'escarcelle américaine, et elle n'y serait pas qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient différentes pour les États-Unis aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Sans la Californie, il n'y aura pas grand-chose aux États-Unis d'une certaine manière. Et puis c'est vrai que comme l'or a été découvert quelques mois après découvert. C'est plus compliqué que ça, parce qu'on soupçonnait, enfin on savait globalement qu'il y avait de l'or, mais il y a une conjonction effectivement entre la nouvelle de l'or et l'annexion par les États-Unis, effectivement. Et ça a changé beaucoup de choses, effectivement.
Ça, dit en passant, c'est un détail que ça ne concerne pas notre propos directement, mais vous montrez bien que on découvre de l'or, du coup il y a une ruée vers l'or, il y a toujours des décalages énormes, ce qui montre bien que c'est jamais une histoire de découvrir le minerai, c'est une histoire qu'il y ait un contexte socio-économique favorable à une ruée vers l'or. C'est jamais, l'or ne crée pas les mouvements créent l'or dans une certaine mesure.
ces immenses territoires qui sont acquis après la guerre de 1846-48, le traité de Guadalupe Hidalgo, il va falloir pour les États-Unis commencer à les contrôler et commence à naître un maillage, pas encore ferroviaire, mais un maillage de forts, de pistes. C'est quoi la présence militaire ou la présence fédérale dans ce qui est en train de devenir cet Ouest incorporé aux États-Unis et dans quelle mesure ça pose les bases des affrontements avec les populations locales?
Alors la présence, elle est paradoxale à certains égards, parce que c'est d'abord l'Ouest, c'est le lieu des États-Unis où la présence fédérale est la plus forte, du fait notamment de l'armée. Donc d'un point de vue relatif, c'est là où les États-Unis sont les plus visibles en tant qu'État fédéral. Et en même temps, malgré tout, la présence reste numériquement très ténue, étant donné la taille de l'Ouest. Effectivement, il y a un semi de fort, mais voilà, quelques milliers d'hommes dans tout l'Ouest, ça, c'est quand même assez faiblard. Mais on a effectivement un semi de fort qui sont effectivement souvent là le long des pistes, parce qu'il s'agit de protéger les colons essentiellement, hein, et de contrôler les Indiens pour protéger les colons. Les deux éléments sont évidemment liés, mais voilà, on a un semi irrégulier, un peu faible, mais tous les soldats sont là par contre, ça c'est sûr.
À partir du moment où le Texas, le sud-ouest des actuels États-Unis, la Californie deviennent des États, sont intégrés territorialement, la question de l'éviction des populations indiennes se pose de manière encore plus frontale qu'auparavant, et du coup c'est dans cette période, des années 1850 principalement, qu'un certain nombre de vos collègues aux États-Unis ont posé la question du génocide des Indiens. Alors c'est un enjeu évidemment très, très lourd, assez complexe aussi. Évidemment, la question indienne ne naît pas à ce moment-là. Il y a déjà eu ce qu'on appelle le Trail of Tears, hein, la piste des larmes, l'éviction du sud-est des États-Unis d'un certain nombre de populations. Mais c'est dans ces années 1850 qu'un certain nombre de chercheurs, de chercheuses disent qu'il y a des actes ou des pratiques génocidaires en Californie ou à d'autres endroits. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les enjeux de cette question?
Les enjeux sont lourds, évidemment, et la polémique rude, elle a effectivement rebondi. Alors, elle a été. Il y a une première période de déploiement du concept de génocide dans l'Ouest américain dans les années 70, mais assez peu assis sur des pratiques académiques, je veux dire. Voilà, on est plus dans des
discours militants.
Par certains historiens, mais voilà, sans preuves, notamment preuves, voilà.
Oui, ils parlaient de génocide, mais ils n'avaient pas forcément écrit les monographies pour le montrer.
Voilà, on a aucune évidence là-dessus. Ça a été relancé, effectivement, il y a une quinzaine d'années, alors sur deux plans. Alors, le premier plan, effectivement, vous le dites bien, notamment sur la question de la Californie. Ça fait très longtemps qu'on sait que la Californie a vécu un drame épouvantable. En deux temps, hein, au moment des missions franciscaines, puis au moment de la ruée vers l'or, et que c'est le lieu où les populations amérindiennes ont souffert le plus. Enfin, un effondrement absolu de la population autochtone. Et un collègue états-unien, Ben Madley, a effectivement repris le débat en réutilisant le concept de génocide. Et là où il l'a fait de manière intelligente, c'est qu'il n'a pas annoncé comme ça, oui, il y a un génocide aux USA ou en Amérique. Il s'est plongé dans les sources et, en travaillant par étude de cas, effectivement, notamment sur les Yuki de Californie, en montrant qu'il y avait effectivement des pulsions génocidaires et des génocides, non pas contre les autochtones en général, mais contre certaines populations autochtones, on pouvait le démontrer. Voilà. Et ça, il l'a bien démontré, effectivement, c'est à peu près clair sur la Californie. Et après, il a évidemment appelé à d'autres études de cas pour qu'on puisse appuyer sur les archives de la même manière, essayer de montrer que, ailleurs ou pas, est-ce qu'il y a eu génocide. Ça a fait débat, évidemment. Certains historiens ont contesté sa position. Non, ce ne sont pas des génocides, etc. D'autres ont profité pour reprendre le terme et l'appliquer, à mon sens, parfois un peu rapidement. On dit, du coup, il le reprend. Donc, on l'applique à nouveau à toute l'histoire états-unienne. Ça reste un débat compliqué. Moi, je suis d'accord avec Medley sur l'idée qu'effectivement, on peut déterminer des histoires génocidaires locales. Voilà. Après, il n'y a pas de génocide décidé globalement à l'échelle fédérale. Voilà. Par contre, au Canada, la situation est différente, puisque le Canada, il y a même une reconnaissance. Il y a eu une commission Vérité et Réconciliation au Canada, et le gouvernement fédéral, via sa commission, a reconnu qu'il y a eu un génocide culturel. Bon, là c'est pareil, le problème de définition compliqué.
Alors maintenant, on arrive évidemment au grand événement de l'histoire du 19e aux États-Unis, c'est-à-dire la guerre de sécession qui va se déployer. Alors, on a déjà commencé à l'aborder, mais ça va se déployer notamment autour de la question de quel régime de loi, quel set de loi on met dans ces nouveaux États. Le Texas, la Californie, mais c'est pas le seul. Enfin, il y a aussi tous les États qui sont intermédiaires. Et Ensuite, ça va évidemment éclater, et c'est évidemment la plupart des batailles, la plupart des combats vont pas du tout se dérouler dans l'Ouest, mais en même temps, il y a une dimension militaire à la guerre de sécession dans l'Ouest qu'il faut pas négliger, mais peut-être pour partir du début, quand ça éclate, comment est-ce que se placent les populations, les pouvoirs de ces États-là? Pour le poser la question de manière terrible, est-ce que l'Ouest c'est le Sud ou le Nord?
Est-ce que l'Ouest c'est le Sud ou le Nord? Ouais, ça fait 20 ans que j'y réfléchis, il y a ça, plus de 25 ans. Ouais. L'Ouest, c'est. En fait, quand le Nord s'étend vers l'Ouest, c'est l'Ouest, et quand le Sud s'étend vers l'Ouest, c'est le Sud, d'une certaine manière. Hein. Parce que l'esclavage, il y a une telle macule que finalement, ça devient le Sud. Bon. Après, chacune des sections, Nord et Sud, veulent étendre leur système plus à l'Ouest. Donc, c'est là, effectivement, que le problème intervient, pour le coup. Hein, quand le Sud, notamment, qui a toujours rêvé de d'étendre son empire de l'esclavage, mais que ce soit d'ailleurs dans l'Ouest, mais aussi au Mexique, aussi à Cuba, aussi au Nicaragua, enfin voilà, il y a toujours eu cette volonté d'expansion de l'empire de l'esclavage quand même.
Alors ça permet de relire du coup la chronologie de la guerre de sécession, puisqu'on sait qu'elle débute officiellement en 1861, mais en réalité il y a des affrontements d'intensité plus faible, mais quand même très importante dès les années 1850, en particulier au Kansas, et c'est un épisode là aussi qui est très peu connu en France, on peut peut-être le pointer un petit peu, le Bleeding Kansas, le Kansas sanglant. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être en deux mots, le Kansas c'est un territoire qui est donc plus au nord hein, que le Texas qui vient de rentrer dans l'Union, et du coup la question se pose, est-ce que ces nouveaux espaces qui vont finir par entrer dans l'Union doivent être esclavagistes ou pas. Et là, le compromis qui est trouvé, maladroitement sans doute, c'est de dire qui se débrouille, que le Kansas et le Nebraska se débrouillent, et sur place, ceux qui l'emporteront diront si ça doit être esclavagiste ou pas. Et du coup, s'ils doivent se débrouiller, ça va devenir des affrontements sanglants.
Ça va devenir des affrontements sanglants. C'est effectivement un compromis, les États-Unis veulent être compromis en compromis sur les questions de l'esclavage et de la progression de l'esclavage vers l'Ouest. Et la loi Kansas-Nebraska, qui effectivement dit, je vous le résume très bien, vous débrouillez avec l'esclavage, au nom de la souveraineté populaire, en fait, elle contrevient au compromis précédent qui était que non, on est trop au nord pour qu'il y ait de l'esclavage. Et voilà, donc on revient là-dessus 4 ans après, en disant, les colons se débrouilleront, nous sommes un État démocratique, ils n'ont qu'à choisir. Et du coup, effectivement, il y a une ruée de colons du Sud et de colons du Nord qui vont chacun et chacune arriver avec leur modèle à imposer, ce qui va mener à cette guerre civile de basse intensité qu'on appelle effectivement le Bleeding Kansas.
On sait combien il y a eu de morts environ?
Ça se compte en dizaines ou en centaines. C'est vraiment une guerre civile de basse intensité quand même. C'est pas majeur quand même. Mais avec par contre, une violence latente quotidienne, un vrai conflit politique autour de ça, et des acteurs qu'on retrouvera après dans la guerre de sécession, parce que la guérilla se forme là d'une certaine manière, et c'est un des éléments majeurs qui vont mener à la guerre de sécession, effectivement. Il y a des épisodes de la genèse de Blueberry sur la question.
Alors on voit qu'on n'est jamais très loin de la culture populaire. Cette guerre de sécession, on l'a dit, elle a pour enjeu principal, d'une certaine manière, la bande de terre assez mince entre les deux capitales de l'Union, Washington, des confédérés Richmond, qui sont séparés de quelques dizaines de miles. Mais elle a un espace géographique beaucoup plus vaste. Et du coup, l'Ouest fait un peu figure de front oublié, parce qu'il y a une historiographie de la guerre qui finalement reproduit un petit peu la logique de la guerre elle-même, qui est de se focaliser beaucoup sur les grandes batailles, les grands affrontements de Gettysburg, Antietam, Bull Run, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ouest pendant ces 4 années?
Il s'est passé énormément de choses. Alors que ce soit oublié, c'est une évidence, parce que l'historiographie états-unienne de la guerre de sécession est une historiographie d'ailleurs qui reste très traditionnelle à bien des égards, qui réécrit 25 fois l'histoire des mêmes grandes batailles, souvent.
Oui, une historiographie régimentaire.
Voilà, régimentaire, et puis toujours sur Gettysburg, Antietam, enfin voilà, on a les mêmes batailles qui reviennent sans arrêt, plusieurs bouquins par année sur les mêmes batailles et les mêmes régiments.
Et ça va très bien avec un milieu associatif où ils font des reconstitutions en permanence. Enfin bon, c'est à bien des égards, c'est l'histoire bataille à la papa.
À la papa, mais qui, dans les cercles académiques états-uniens, se porte très bien quand même. Hein.
Et ce qui permet sans doute aussi d'occulter un certain nombre de questions politiques par cette guerre.
Exactement, exactement. Et puis du coup, l'Ouest est effectivement oublié là-dedans, parce que l'Ouest est beaucoup plus compliqué que ce brutal affrontement sud-nord, puisque l'Ouest est un terrain qui voit à la fin le Sud et le Nord s'affronter, mais les populations autochtones sont au milieu, les Hispaniques sont là aussi. Le terrain est beaucoup plus complexe à saisir, à maîtriser, et les conflits qui ont lieu pendant cette tranche chronologique de la guerre de sécession commencent avant et continuent après. Donc c'est effectivement beaucoup plus compliqué à maîtriser, ça ne rend les choses que plus intéressantes, hein, effectivement. C'est ce conflit éclaté de la guerre de sécession dans l'Ouest.
Mais alors, avec des formes qui sont assez particulières aussi, parce qu'évidemment, il y a moins de monde et ce n'est pas les grandes armées. C'est, voilà, c'est un domaine de guérilla dans le Kansas, dans le Missouri, etc. Mais c'est presque de la petite guerre dans un espace désertique très éclaté, etc., à bien des égards.
Bah pour ce qui est effectivement de ce modèle-là, parce qu'il y a plein de conflits qui s'enchevêtrent dans l'Ouest, mais effectivement, Missouri et Kansas sont les deux États où il y a le plus de guérilla. Ce ne sont pas les seuls, hein, mais ce sont les États où la guérilla est la plus, de loin la plus importante. Effectivement, petite guerre, guérilla sudiste, une extrême violence. Hein, on a des épisodes d'une extrême violence autour des figures de Cantrill, par exemple, de Bloody Bill Anderson, qui est un de ses lieutenants et qui a également commis des massacres.
Allez, il faut mentionner l'un des plus célèbres qui prend part, évidemment, à cette guérilla dans le Missouri, c'est évidemment Jesse James.
Jesse James, oui. Alors, qui est intéressant presque plus pour sa sortie de guerre ratée que pour son rôle dans la guérilla, parce que voilà, c'est un guerrier héros parmi les autres, il est tout jeune à l'époque, voilà, bon, effectivement, c'est un guerrier héros. Mais il est surtout intéressant, les historiens l'ont bien montré, pour la sortie de guerre, en fait. Jesse James fait partie de ceux qui n'ont pas réussi à sortir de la guerre, finalement, pour lesquels il y a une trahison à la paix, dans la Reconquête du Nord, et qui n'a pas quitté son ethos guerrier au service de la cause esclavagiste, qui va juste, avec son frère, le réemployer, hein, au service d'un banditisme qui va être pratiqué au nom de la cause perdue d'une certaine manière, mais enfin c'est du banditisme, voilà, c'est qui s'habille des oripeaux de la cause perdue de la part de gens qui n'ont pas réussi à arrêter de se battre d'une certaine manière.
Ce qui est logique aussi dans la mesure où si on peut démobiliser des armées régulières levées avec des officiers, un système de commandement, etc., qui existe plus à l'est, les armées de Lee qui se rendent à Appomattox.
Et déjà, c'est pas manière. Facile.
Et c'est pas toujours facile, mais malgré tout, c'est plus cadré. On comprend qu'à l'ouest, où c'était déjà des formes beaucoup plus incertaines, beaucoup plus fluides de recrutement, d'agrégation de groupes divers, variés, des gens qui rejoignent une bande de cavaliers, qui en repartent, qui pillent, qui combattent, etc. On comprend qu'il y a une transition guerre-paix qui est plus complexe.
Qui est beaucoup plus complexe. Le grand massacre des Cheyennes à Sand Creek en 64, il est effectué par des miliciens locaux, donc à nouveau, hein. Des gens qui seront encore là après, de toute façon, sous d'autres formes, parfois même dans la milice. Et le Chivington qui menait les troupes au moment du massacre était un ancien pasteur, donc colon, pasteur, etc., mais qui a massacré les Cheyennes à Sand Creek. Et puis dans les conflits autochtones, évidemment, la fin de la guerre, la guerre de sécession, donc la guerre dans le Sud, n'a absolument pas mis fin aux conflits contre les Apaches, les Comanches, les Lakota, etc.
Et justement, il faut en parler maintenant et dire que. Parce que donc il y a ce conflit qui est tel qu'il est, très différent de celui qui est à l'est dans ces régions-là, et puis vient se surimposer dessus évidemment les guerres contre les Indiens, puisque les Indiens voient ça, ils en profitent un peu, et puis en même temps ensuite c'est au contraire les colons qui vont en profiter, qui vont profiter du contexte pour essayer de réduire. Donc en quelque sorte, comment est-ce que les deux se superposent, comment est-ce que les guerres indiennes se réintroduisent dans ce contexte de guerre de sécession dans ces régions-là?
Elles se réintroduisent parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, chacun profite finalement de la situation. C'est-à-dire que
Les Français pour mettre un pied au Mexique.
Exactement. Même les Français pour mettre deux pieds au Mexique. Puis après être chassés à coups de pied aux fesses. Mais effectivement, les Apaches, par exemple, vont profiter effectivement du conflit entre Sud et Nord quand les Sudistes vont envahir le Nouveau-Mexique. Vont en profiter pour essayer de reprendre leur position. Les Dakota dans le Minnesota vont profiter finalement du départ des troupes fédérales pour se lancer dans une révolte qui échouera complètement, mais il y a effectivement cette idée de on profite du vide pour se révolter, et à contrario les miliciens de Chivington vont profiter eux aussi du vide fédéral pour massacrer des Cheyennes. Donc chacun effectivement tire profit d'une situation d'instabilité effectivement pour essayer de renforcer ses positions.
Est-ce qu'on peut revenir sur cet événement de 1862, hein, qui a des dénominations différentes suivant les points de vue? Il y en a qui parlent de soulèvement des Dakotas, de révolte des Dakotas ou de guerre des Dakotas. Qu'est-ce qui se produit? Parce que c'est un événement qui est assez emblématique aussi du type de violence qui pouvait exister entre population indienne et colons états-uniens.
Ouais. Alors, c'est un événement qui, effectivement, dont le nom est intéressant. Dont le nom est intéressant parce que si je vous dis que c'est une révolte, déjà je prends parti d'une certaine manière.
Alors peut-être décrivons ce qui s'est passé.
Décrivons ce qui s'est passé. Les Dakotas ont été, qui habitaient dans la haute vallée du Mississippi et la vallée de la rivière Saint-Pierre depuis très longtemps, pas depuis les temps immémoriaux, mais depuis au moins quelques siècles, ont été des acteurs importants du commerce de la fourrure pendant très longtemps. Et puis les États-Unis s'installant et créant effectivement le Minnesota, la colonisation aidant, en fait, voilà, par le traité de travers d'issue en 1851, les Dakotas sont réduits en réserve, une réserve qui longe la vallée de la rivière Saint-Pierre, enfin qui aujourd'hui s'appelle Minnesota, mais qui à l'époque on l'appelle encore rivière Saint-Pierre. Donc une réserve qui est vraiment la rive sud de la rivière, quoi, globalement. Une réserve, voilà, bon. Et évidemment, ça, alors avec une agence indienne à chaque bout, hein, de la réserve, et évidemment ça ne fonctionne pas. La réserve est totalement insuffisante pour faire vivre les populations autochtones qui sortent le plus souvent de la réserve pour continuer leur mode de vie en allant chasser en saison le bison.
Parce qu'en plus, la conception même de l'espace qu'implique l'idée de réserve contrevient généralement aux pratiques sociales des populations amérindiennes qui ont des terrains mouvants, qui peuvent se déplacer pour différentes raisons. Voilà, c'est deux conceptions de l'espace qui sont orthogonales l'une à l'autre.
Qui n'ont totalement rien à voir, sachant que les Dakotas n'étaient pas des populations nomades, mais semi-nomades, hein, donc qui avaient des villages en dur le long de la rivière, mais qui en saison, effectivement, partaient à la chasse dans la prairie. Et là, en gros, on leur dit, vous ne le ferez plus. En même temps, voilà, elles le font quand même. Donc ça pose des tas de problèmes majeurs. Et en 1962, effectivement, en profitant du contexte de guerre, et parce que les rations promises n'arrivent pas ou mal comme d'habitude, un certain nombre, pas tous, un certain nombre de Dakotas décident de se soulever. Ils arrivent à convaincre le grand chef Little Crow de se soulever avec eux. Alors, il y croyait sans doute pas beaucoup, hein, mais il ne pouvait pas vraiment faire autrement, donc il est allé en soutien. Donc une révolte qui au bout de quelques semaines a été totalement écrasée, qui a quand même effectivement occasionné plusieurs centaines de morts chez les colons. Pour le coup, effectivement, c'est un des très rares épisodes où les autochtones vont sortir de leur réserve et massacrer des centaines de colons. Ça, c'est très rare que ça arrive comme ça, mais voilà, il faut quand même le signaler quand ça arrive.
Oui, parce que ça rejoint tout le discours justement produit aux États-Unis pour dire il faut qu'on se protège de ces sauvages qui sont prêts à massacrer des innocents, fermiers, des armées, etc. Généralement, c'est du discours. Là, pour le coup, ça correspond à une réalité.
Voilà, c'était entièrement vrai, avec des mouvements de panique terribles. Et donc, une révolte matée au bout de quelques semaines, assez rapidement, avec intervention de l'armée fédérale du général Pope, qui venait d'échouer lamentablement contre les sudistes à l'est. Hein.
Bon. Ouais, alors c'était plus simple finalement contre les Dakotas contre les sudistes.
Et en fait, effectivement, il y a le problème du nom. Pendant très longtemps, ça a été juste vu comme la révolte Sioux, voilà, la révolte Sioux, avant qu'on se rende compte que c'était pas que des Sioux, c'était Dakota, les Sioux étant beaucoup plus complexe que juste ça. Donc, révolte Dakota. Ça a été renommé récemment, notamment quand on a célébré le 150e anniversaire dans le Minnesota, où on a appelé une guerre, effectivement, une guerre entre Dakota et États-Unis. Et même Anderson, le grand historien du conflit, hein, qui depuis a dit voilà, c'est une guerre totale. Bon, en 6 semaines, je trouve ça un peu curieux d'appeler ça guerre totale, parce que il y a quand même quelques centaines de morts en 6 semaines. Bon, guerre totale, ça me semble un peu exagéré.
Le concept de guerre totale correspond rarement à grand chose,
On est d'accord. Bon. Et en fait, moi, c'est le terme de guerre qui me dérange, parce que si on dit c'est une guerre, je vois bien la logique qu'il y a derrière, qui est de rendre finalement aux populations autochtones une sorte de dignité. Alors voilà, ce ne sont pas des populations de sauvages révoltés. Ils ont une égale dignité et on fait une guerre entre États. Bon. Et en même temps, si on dit ça, ça évacue complètement le contexte colonial. En fait, ça ne dit pas ce qu'ils étaient, c'est-à-dire une population colonisée, dominée, qui se révolte, ce qui est quand même fondamental, me semble-t-il, à comprendre quand même.
Si sont presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano
sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek.
Alors ensuite, donc c'est des révoltes qui vont être réduites très brutalement. Et ensuite, il y a cette sortie de guerre civile qui est un moment de réaccélération, en quelque sorte, de l'emprise alors du Nord victorieux sur cet espace-là. Ça va passer par plein de choses, ça va passer par des artifices légaux, ça va passer aussi... Et c'est intéressant parce que c'est une image qu'on a tout à fait en tête et que moi, personnellement, j'en étais totalement convaincu, le rôle du chemin de fer absolument central dans voilà, le chemin de fer qui traverse la plaine et qui devient le grand vecteur de l'homme blanc, etc.
La jonction de l'ouest et de l'est à Promontory Summit, le clou doré pour rejoindre les deux.
C'est des trucs qu'on voit dans toutes les BD, dans tous les films là-dessus. Et vous montrez, enfin en tout cas vous retraduisez un débat historiographique qui a lieu apparemment aux États-Unis, qui a eu lieu, qui montre que c'est discutable au mieux. Et que il y a plein d'autres choses qui se passent et il y a notamment une intégration légale. Alors il y a plein de signaux qui sont donnés aux colons et ça va et qui vont s'en donner à cœur joie, mais que le chemin de fer c'est un outil parmi d'autres, pas d'une importance forcément première.
Ouais, là effectivement c'est pas d'une importance première. D'abord c'était pas rentable, ça pouvait pas être rentable le chemin de fer. Comme il y avait personne, il y avait pas de colons, donc ça ne pouvait pas être rentable. Donc ça n'est rentable que par subvention fédérale et dons de terres et en vendant les terres, les compagnies comme ça amassent des sous, mais qu'elles n'auraient jamais à amasser par les clients qui fréquentaient leur ligne, qui n'existaient pas pour ainsi dire. Donc effectivement le rôle du chemin de fer a été très relativisé. Alors ça fait assez longtemps qu'il y a eu des histoires contrefactuelles autour du chemin de fer. Qu'est-ce que serait devenu les États-Unis sans le chemin de fer? Puis ça a été revisité récemment par White, effectivement, ces histoires de chemin de fer. Donc on relativise très clairement le rôle du chemin de fer. Il y a effectivement plein d'autres outils de la conquête. Enfin, le premier, de toute façon, c'est l'armée fédérale, avant tout. C'est l'armée fédérale qui conquiert, c'est pas le chemin de fer, de toute façon.
Cette période post-guerre civile, elle porte un nom dans l'historiographie, c'est la reconstruction qui va jusqu'en 1865 à 1877, dont un enjeu fondamental est relativement bien connu, c'est l'enjeu du Sud, dans quelle mesure les troupes fédérales vont réussir à imposer la démocratisation au Sud et l'intégration des Noirs à la communauté politique, et elles le font dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, elles se retirent, pour le dire vite, et le pouvoir des planteurs sudistes reprend le dessus, et les Noirs sont de nouveau exclus, en résumant encore une fois très rapidement. Vous montrez dans le livre qu'on gagne à penser la reconstruction dans un cadre plus global, c'est-à-dire on gagne à sortir la reconstruction de son caractère très localisé dans le Sud pour réfléchir à une reconstruction plus générale qui implique les conséquences plus larges de la guerre civile pour toutes les populations dominées, que ce soit les populations noires du Sud, mais aussi les populations indiennes, les populations mexicaines, hispaniques, que finalement il y a un cadre conceptuel qu'il faut peut-être faire évoluer.
Oui, ça c'est un des grands acquis de la recherche récente aux États-Unis, le concept de grande reconstruction qui a été porté par Elliott West, bien nommé. Ce serait bien si on portait tous le nom de la région sur laquelle on travaille, ce serait sympa. Et Elliott West, non.
Je suis en train de me demander ce que ça donnerait pour moi, je ne suis pas sûr. Bon, peu importe.
Donc Elliott West qui effectivement a développé cette idée d'une grande reconstruction qu'il ferait commencer non pas au lendemain de la guerre de sécession, mais au lendemain de la guerre du Mexique. Alors, voilà, la guerre du Mexique, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, génère une obligation de repenser le pays. Voilà. Parce qu'il faut intégrer les populations hispaniques, parce que ça mène à l'exacerbation du conflit nord-sud, qu'on a des populations autochtones qui sont là également. Et effectivement, du coup, on repense l'ensemble, et en comparant effectivement le sort des trois populations, et notamment des deux pensées comme inférieures très clairement, c'est-à-dire et qui sont racisées de manière outrancière, les populations autochtones et les populations afrodescendantes, et effectivement on repense les deux, et les projets fédéraux, ce qui est intéressant, c'est que les projets fédéraux de constater à quel point il y a des points communs effectivement dans les deux cas. La manière de penser ces populations racisées et de penser leur développement, avec tous les guillemets qu'on veut, mène à des schémas un peu similaires effectivement.
Alors c'est intéressant cette idée de repenser la chronologie, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer imaginer de mettre côte à côte les guerres des années 1840-1860 aux États-Unis avec les guerres européennes de construction nationale, donc construction, reconstruction, bouleversements territoriaux, les guerres et révoltes qui affectent l'Asie, deuxième guerre de l'opium, révolte dite des Sipai en Inde. On est dans une période de transformation militaire et de manière de faire de la guerre qui affecte la composition des territoires à l'échelle globale. Bon, il y a une conjoncture guerrière très très forte dans ces années 1840-1850-1860, effectivement, avec des effets notamment pour les populations dominées. Alors, du coup, qu'est-ce que ça transforme militairement la fin de la guerre civile? On a l'impression que les forces fédérales vont être plus nombreuses, plus présentes, et que les dernières populations indiennes qui sont à l'ouest et qui résistent vont avoir peu de poids face à ces troupes qui, en plus, sortent de 5 ans de guerre où on a appris un maniement des armes et on a eu même un perfectionnement technique très fort. On a l'impression qu'il y a un basculement du rapport de force, en quelque sorte, qui s'opère.
Oui, alors qui n'est pas immédiat, d'une part, parce que les États-Unis vont démobiliser massivement à la fin de la guerre civile. Du coup, voilà, il y aura à nouveau peu de troupes disponibles. Et, elles seront toutes dans l'Ouest, mais il y a à nouveau quand même peu de troupes. Et effectivement, il y a un effet mémoire sur les techniques et sur les officiers. Ce qu'on a, comme Custer, par exemple, qui effectivement a été héroïsé par ses actions dans la guerre de sécession et qui se retrouve après sur le terrain Ouest, mais ce n'est pas le seul. Sherman, Sheridan, tous les grands généraux de l'Ouest sont des grands généraux des guerres indiennes, en grande partie. Donc il y a effectivement un transfert de savoir pratique, notamment face à la guérilla, notamment dans la marche vers la mer en Géorgie en 1864, qu'on peut redéployer dans l'Ouest états-unien. Après, le rapport de force, il est pas si, le décalage n'est pas si brutal, parce que à la fin des années 1860, dans les Grandes Plaines, par exemple, les Lakota sont encore une grande puissance, et une grande puissance en expansion. Donc le rapport de force, il n'est pas si évident que ça. Et je rappelle quand même que Custer a perdu en 1876, donc ça n'avait rien d'évident, la défaite finale quand même.
Est-ce qu'il y a une manière amérindienne de faire la guerre, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à chaque peuple? On sait que c'est des populations qui ont depuis longtemps adopté le cheval, les armes à feu. On est loin de certaines représentations, lances, arcs et flèches, qui pouvaient correspondre peut-être à certaines pratiques, mais c'est plus du tout le cas dans les années 1870. Et donc est-ce qu'il y a des savoirs tactiques? Est-ce qu'il y a des travaux qui permettent de dessiner un petit peu les contours de cet art de la guerre, s'il existe?
Il existe. Alors, sur l'adoption du cheval, de l'arme à feu, c'est très différencié en fonction des populations amérindiennes. Tout le monde n'est pas nomade. Certaines ont fait le choix de ne pas faire, de pas passer au nomadisme. L'arme à feu a été pas mal adoptée, mais pareil, de manière très différenciée. Et même le apprendre à servir d'une arme à feu sur un cheval, ça n'a rien d'évident. Donc, tout le monde n'est pas passé au même modèle qu'on a effectivement tous et toutes en tête de ces Indiens à cheval. Ça ne représente pas tous les Indiens, évidemment. Oui, il y a des manières de faire. Des manières de faire qui vont se retrouver quand même en échec. Mais je dirais que c'est un peu la même chose que contre le Mexicain. C'est aussi un problème de nombre, tout simplement. Il y a aussi dans ces guerres-là, le déséquilibre numérique est quand même majeur. C'est aussi bête que ça. Et les Lakota s'en sont bien rendus compte. C'est-à-dire que ils savaient bien que leur victoire contre Custer en 76, qui est une victoire du nombre, parce que Custer a fait absolument n'importe quoi d'un point de vue tactique, et effectivement, il s'est retrouvé en minorité face à des troupes gigantesques. Mais les Lakota étaient bien conscients, malgré tout, que les Lakota et les Cheyennes, leurs alliés, les Arapaho, tous les alliés autour des Lakota à ce moment-là, étaient bien conscients du différentiel numérique et qu'ils n'y arriveraient pas.
Il n'y a jamais eu d'armes lourdes, il n'y a jamais eu de tentatives, il n'y a jamais eu d'artillerie indienne, par exemple.
Non. Et alors, on parlait tout à l'heure de la révolte de Dakota en 1862. Il s'est passé, au moment de cette révolte, un événement qui est assez... qui est tout à fait inédit, qui n'existait qu'une fois. C'est effectivement les Dakota qui s'attaquent à une ville. Voilà. Et pour prendre New Ulm, quoi. Bon, c'est ce qui n'avait, d'un point de vue tactique, pas de sens. Mais effectivement, parce qu'ils savaient bien, ça ne leur servait à rien. Puis, de toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient fait d'une ville qui n'est pas du tout de leur monde, a priori. Donc, non, pour le coup, il n'y a pas d'artillerie indienne.
Mais à l'inverse, on a pu voir, ça a pu être beaucoup glosé, l'adaptation des Blancs, enfin des colons, et de leurs forces aux tactiques indiennes. C'est notamment l'histoire des Texas Rangers, etc., avec tous ces gens qui, pour essayer notamment de saisir les Comanches à une certaine époque, vont essayer de se former, vont essayer d'adopter tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport, en quelque sorte, en miroir? Il y a la supériorité évidente technologique, disons, des Occidentaux, et ensuite, mais quand même avec des formes d'hybridation, d'adaptation qui font des formes d'affrontements qui sont quand même très particuliers sur le terrain.
Il y a des formes d'hybridation et des formes de collaboration. Moi, je mettrai plus l'accent là-dessus. C'est-à-dire que on a quand même intégré aux armées amérindiennes des scouts, aux armées états-uniennes, des scouts amérindiens. Hein, et on a la même chose au Canada. C'est-à-dire qu'il y a des auxiliaires métis, pour le coup, dans l'armée, enfin, dans les troupes canadiennes, dans la police montée canadienne, de manière massive. Et effectivement, ça donne un avantage terrible aux troupes, qu'elles soient canadiennes ou états-uniennes, parce que ça offre une porte d'entrée sur ces populations-là, à la fois en termes de réseaux familiaux, et puis en termes, effectivement, de savoir technique, d'accès aux ressources, etc. Alors, évidemment, quand je parle de collaboration, il y a un côté, ça, en français, c'est compliqué, le terme est un peu connoté, mais effectivement, on a des collaborateurs amérindiens ou métis, aux armées colons.
Oui, parce que rappelons, enfin, c'est une guerre des raids, etc. Face à laquelle, pendant un certain temps, les colons vont être un peu démunis parce que c'est des populations qui sont très mobiles, qui se déplacent très nombreux, et donc il va y avoir tout un savoir-faire pour comprendre comment ils fonctionnent et comprendre comment les couper en quelque sorte de leur base. Et ça va être des guerres, ça va être des actions extrêmement brutales, extrêmement meurtrières pour la population civile. On peut mettre des gros guillemets sur le civil. Indienne, mais ça va mettre quand même un moment aux États-Unis avant de comprendre comment faire. Quoi.
Oui, en même temps, ils vont assez vite comprendre. Enfin, dès la fin du 18e, dans les guerres indiennes de la fin du 18e, les États-Unis, mais comme les Britanniques avant et les Français avant, ont aussi bien compris que s'attaquer aux villages et donc aux ressources, c'était quand même un des principaux outils qu'on pouvait utiliser contre les populations autochtones, quand même.
Mais alors justement, toujours sur cette imbrication, on peut mentionner qu'il y a un grand épisode qu'il faut relire, qui mène ensuite à toutes ces guerres indiennes, les dernières grandes guerres indiennes des années 70, 1870, pardon. C'est la disparition des bisons. C'est toujours très intéressant, très stimulant, parce que c'est un lien entre l'histoire environnementale, les pratiques sociales, et ensuite une histoire plus politique et militaire. Ça a été lu, notamment du côté des Indiens, comme une tentative quasi génocidaire, génocidaire pour les bisons, mais aussi en s'aprivant les Indiens de leurs moyens, de leurs ressources alimentaires notamment. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, au vu de l'historiographie actuelle, de ce que les États-Unis avaient en tête et ce qu'ils ont réussi ou pas à faire via cette extermination massive des bisons, notamment dans les grandes plaines?
Alors, il y a sans doute pas, enfin, les dernières recherches, parce qu'à nouveau, là, peut-être dans 10 ans, on vous en dira autre chose, hein, mais en fait, parce que c'est un sujet très complexe et très, très actuel. Mais les dernières recherches tendent quand même à montrer qu'il n'y a pas, de la part des États-Unis, pas plus que des Canadiens, de plan d'extermination des bisons, de plan fédéral d'extermination des bisons, avec l'idée derrière que ce serait une extermination des populations autochtones.
Il n'y a pas d'instrumentalisation de l'arme alimentaire contre les Indiens, en tout cas à l'échelle fédérale.
L'arme alimentaire, c'est trop chaud, parce que du côté canadien, il y a eu une politique de famine, clairement, mais qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec les bisons, c'est plutôt un problème de ration qu'on n'offre plus, mais de manière volontaire. Donc effectivement, il y a une mise en famine, on va dire, des populations autochtones côté canadien. Par contre, effectivement, l'extermination des bisons, elle intervient sur la longue durée, elle est compliquée, parce que la baisse des effectifs en bisons, on la voit poindre déjà fin 18e. En fait.
Vous montrez bien d'ailleurs que sur le temps très long, enfin, l'histoire environnementale montre que c'est très compliqué. Les bisons, il y a des siècles où ils ont disparu bien avant l'arrivée des Européens, ils reviennent. Enfin, bon, c'est une population, c'est une niche écologique.
Parce qu'il y a des cycles environnementaux qui font que les plaines, c'est très instable d'un point de vue environnemental. Et
c'est pas une présence inhérente dans les plaines depuis toujours.
Tout à fait. Et en fait, il y a un premier effritement de la population fin 18e. Qui tient à la fois des conditions environnementales et puis déjà à la chasse, mais tout simplement parce que les Amérindiens eux-mêmes chassent les bisons pour répondre à des demandes européennes et états-uniennes, mais ce sont bien les autochtones qui chassent quand même, donc qui eux-mêmes contribuent à la baisse des effectifs. Cette baisse d'effectifs, elle se poursuit, et effectivement, il y a une accélération radicale dans les années 70-80, là, effectivement, qui va mener à la quasi-extinction du bison. Mais le moteur de cette quasi-extinction n'est pas initialement de dire, tiens, on va éliminer les bisons, ça détruira les Indiens. On s'est rendu compte que ça le faisait, et ça n'a attristé personne. Hein, on est d'accord. Ou très peu de monde. Mais il ne s'agissait pas d'un plan concerté d'extermination des bisons, donc des populations autochtones.
Alors pourquoi ils voulaient exterminer les bisons ?
Il y a des intérêts économiques aussi.
Il y a des intérêts économiques derrière. Le bison sert à tout. Le bison, c'est comme le cochon. Hein. Tout est bon dans le bison.
Oui, il y a des épisodes qu'on raconte de surchasse absolue de troupeaux entiers qui sont décimés enfin et pas utilisés quoi. Ça,
alors non, c'est pas qu'ils sont pas utilisés, ils sont utilisés pour des, enfin les carcasses sont laissées, mais on va en prendre leur langue, on va prendre la peau, puis pas le reste. Le bison, alors les populations autochtones, elles utilisaient tout dans le bison, la chair, la graisse, les os, la peau, enfin absolument tout. Les chasseurs blancs qui se ruent dans les plaines dans les 70 n'utilisent pas tout dans le bison. La langue, parce que c'est un mets gastronomique de choix, la peau, parce que ça peut servir à plein de choses, mais globalement, la chair, ils n'en ont pas à l'usage, et du coup, ils laissent effectivement les cadavres pourrir. Une fois qu'on a pris ce qu'il fallait prendre, on laisse les cadavres pourrir.
Du point de vue des États-Unis, lorsque ces derniers grands affrontements des années 1870-1880 contre les Nez-Percés, les Comanches, les Apaches ont lieu, est-ce que l'option de la guerre est on va dire unanimement partagée? Est-ce qu'on a des voix discordantes? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à dénoncer la violence faite à ces populations amérindiennes? Est-ce que l'option guerrière est une évidence pour l'opinion publique aux États-Unis, ou est-ce que c'est un petit peu discuté?
Ça n'a jamais été une évidence. Il y a des éléments de discussion. Et puis, je pense qu'en plus, là, de ce point de vue-là, il faudrait se passer à l'échelle atlantique, parce que l'Europe aussi sait qu'il se passe ça aux États-Unis. Et l'Europe aussi le discute. Les Français, notamment, en profitent pour dire, bah oui, nous, on aurait été là. Notre colonisation, nous, n'a rien à voir.
Si seulement on n'avait pas vendu la Louisiane.
C'est ça. Si seulement on n'avait pas perdu la Nouvelle-France et vendu la Louisiane, vous auriez vu, on aurait traité différemment les populations autochtones.
Oui, il y aurait sans doute toute une émission à faire sur la mythification de la Nouvelle-France comme lieu de fraternité franco-indienne, etc. Bon, c'est aussi des images qui peuvent être déconstruites.
Oui, mais ce mythe naît à ce moment-là. Tiens, effectivement, il y a l'idée de, regardez ces méchants États-Unis, on aurait fait sacrément différemment. Bon. Aux États-Unis même, il y a des contestations, et j'allais dire même des contestations qui vont mener au pire, d'une certaine manière, parce que j'évoquais tout à l'heure le génocide culturel des populations autochtones. D'une certaine manière, le génocide culturel a été fait par des Blancs qui, de toute bonne foi, voulaient le bien des Indiens, d'une certaine manière. Voilà. Mais qui, parce qu'ils voulaient le bien des Indiens, voulaient faire disparaître les cultures indiennes. Voilà.
Vous voulez que ça devienne des fermiers, chrétiens, petits propriétaires, allant à l'église le dimanche
Kill the Indian to save the man. Voilà, il fallait tuer l'Indien en l'homme pour sauver l'homme, tout simplement. Bon. Et ça, je veux dire, c'est une politique très condamnable, mais qui est faite en toute bonne foi, pour sauver les Amérindiens de la disparition.
Il y a aux États-Unis une date extraordinairement symbolique, 1890, parce que c'est la date où le Bureau du recensement des États-Unis dit officiellement que la frontière, au sens de espace non peuplé, non colonisé, est officiellement fermée. Mais c'est également la date du massacre de Wounded Knee, qui symboliquement aussi marque la fin des guerres indiennes. Est-ce qu'on peut dire un mot de cet événement ?
Oui, alors symboliquement, ça marque la fin des guerres indiennes, effectivement. Ça a été érigé en symbole beaucoup au XXe siècle. Et puis, en plus, il y a eu une reprise par le mouvement amérindien dans les années 70 du site.
Il y a eu un livre très connu de Bury My Head at Wounded Knee.
Voilà, c'est ça, effectivement. Donc voilà, il y a cet effet mémoire sur ce lieu-là, qui est sur le temps long intéressant, à la fois parce que c'est un massacre amérindien, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire états-unienne. C'est le dernier, mais bon, voilà, il vient au bout d'une longue suite. Et en général, ces massacres touchent des villages de ceux qui, justement, voulaient la paix, en général. C'est le cas. Et en plus, si on le traduit sur le temps long, il s'agit à la fois d'une panique côté états-unien et d'une manipulation politique de la part des républicains face à un mouvement spirituel. Qui à nouveau, si on le prend sur le temps long, est extrêmement intéressant, parce que c'est à la fois un phénomène qu'on a vu à plusieurs reprises dans l'histoire nord-américaine, j'allais dire, d'alliances prophétiques entre différentes populations amérindiennes pour se protéger de la catastrophe qui vient, et puis en même temps
il y a une logique, quoi. C'est oui. la catastrophe est telle qu'il y a un messianisme qui apparaît derrière pour donner de l'espoir, quoi.
Voilà, qui est normal, j'allais dire. Bon. Et en même temps, c'est aussi une rencontre religieuse, il y a des éléments chrétiens dans le nouveau culte, etc. Donc sur le temps long, c'est extrêmement intéressant, mais effectivement ça a généré des angoisses côté états-unien qui ont généré ce massacre, voilà, effectivement, qui est le dernier massacre amérindien.
Est-ce qu'on peut relire l'histoire de l'Ouest au 19e siècle comme finalement un Ouest produit par la violence? Est-ce que la violence, la guerre sont une clé de lecture globale? Le concept clé, c'est évidemment celui de frontière défendu par Turner et complexifié depuis un siècle par toute une série d'autres travaux. Mais est-ce que derrière cette frontière, il n'y a pas quand même l'idée que la violence a été la forge, en quelque sorte, de cet Ouest états-unien?
Alors la violence, le concept lui-même est tellement polysémique que c'est compliqué de le lire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un territoire colonial. Et comme tout territoire colonial, il est construit par la violence. La colonisation est une violence, à tous égards.
Mais une violence assumée aussi bien par l'État que par des groupes non étatiques, c'est aussi un espace dans lequel l'État fédéral va finir par dégager complètement ce monopole de la violence, mais elle peut aussi être déléguée à certains moments à des milices, à des colons qui sont armés eux-mêmes. Autrement dit, il y a la violence de l'État, mais il y a d'autres formes de violence durant toute la période.
Il y a bien d'autres formes de violence. Alors par là, et là, il y a des débats à non plus finir sur les conjonctures violentes, les espaces-temps violents à venir, parce que tout l'Ouest n'est pas tout le temps en tout lieu violent. Donc il y a une multiplicité d'espaces-temps de violence en fonction de conflits d'usage des terres entre colons, effectivement de conquêtes coloniales, de populations déplacées. Enfin voilà, il y a des violences à la fois sociales, genrées, raciales. Enfin, la question de la violence dans l'Ouest, c'est une question qui est extrêmement complexe. Et du coup, j'ai perdu le fil de la vôtre.
Non, mais on peut dire qu'il y a eu une sorte de renversement qui fait que... ça apparaît dans les westerns, ça apparaît dans toute la culture populaire, cette idée que l'Ouest est peuplé de colons pacifiques qui se font attaquer par les Indiens, qui se font attaquer par des bandits, qui se font attaquer par des gens, etc. Il faut faire la guerre, il faut défendre ces gens-là qui sont extrêmement pacifiques. Et à la lecture de votre ouvrage, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. C'est, en fait, la violence est complètement structurante, c'est quasiment la violence et la guerre qui produit le territoire, puisqu'il faut bien chasser les gens, ou en tout cas s'assurer que les Indiens ne vont pas venir pour pouvoir créer les exploitations, les fermes, etc. Donc, en fait, on a l'impression que ça renverse tout à fait cette idée de... c'est des gens qui cherchaient de l'espoir et des terres et qui ont dû se défendre. Au contraire, on voit que c'est quelque chose de prédation et où la violence est complètement intégrante dès le départ.
Ça me semble pas antinomique. Les gens sont allés chercher de l'espoir et des terres aussi. Le fait est que pour les prendre, il fallait être violent. Mais il fallait être violent. Beaucoup des colons arrivent après la phase de violence. Les colons s'installent quand l'armée a conquis. Donc eux, pour beaucoup des colons, beaucoup des colons n'ont pas vu la violence d'une certaine manière.
Merci beaucoup, Sosie Guillerbu.
De rien.
Je vais rappeler les références de cet ouvrage, donc La Nouvelle Histoire de l'Ouest, Canada, États-Unis, Mexique, sorti il y a quelques semaines aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup.
Merci Alexandre et à bientôt pour un nouveau Fil de l'Épée.
C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par André Loez et Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André ou de moi-même, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcasts ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.